Lundi c'est rugby, lundi c'est rugby. France Bleu Roussillon, France Bleu Roussillon.
Bonsoir Cyril Bayère.
Bonsoir Sébastien. Bonsoir à tous.
Sur le match d'hier face à Bordeaux avec une 11e défaite.
Ouais, la situation de l'USAP hein, surtout qu'on va aborder pendant cette heure. C'est vrai qu'on a connu des émissions plus sympas. Je remercie nos invités d'être là. Patrick Arletaz, l'entraîneur de l'USAP, et bonsoir Patrick. Bonsoir. Et Mathieu Acébès.
Bonsoir.
Bonsoir Mathieu, merci d'être là. Et avec nous aussi Jean-Marc Pastoret, le président des Baratines, pour aussi avoir l'avis des supporters sur cette situation de l'USAP. Bonsoir Jean-Marc.
Bonsoir.
On va en parler dans quelques instants, bien sûr, à la fois de ce classement, de cette situation qui nous réjouit pas du tout, bien évidemment, du match d'hier. Que faire si tenter qu'on puisse avoir des solutions et évoquer un petit peu en fin d'émission le challenge européen des deux prochains week-ends, et notamment le week-end prochain en Irlande, à Galway.
L'USAP. Suivez l'USAP avec limonette mille, limonade catalane à l'eau de source et aux extraits naturels d'agrumes depuis 1928.
Allez, c'est parti. Mathieu Acébès, forcément, on a connu des lundis quand on est joueur, même ici hein, d'ailleurs, plus récemment, les dernières saisons, quand on voit l'entraînement plus joyeux.
Oui, ben c'est difficile. Voilà, c'est encore une défaite. Et ce qui est rageant, c'est qu'on se bat, on donne tout ce qu'on a et on se rend compte qu'on n'arrive pas à passer pour avoir la victoire, et c'est ça qui est regrettable. Et on se sent pas loin, mais on gagne pas, et ça c'est le plus dur.
Jean-Marc Pastoret, puisqu'on va aborder directement bien sûr cette situation de l'USAP dernière après ce match contre Bordeaux, 11 points de Grenoble, 13 d'Agen. Quel est l'avis globalement des supporters? Cette USAP, Jean-Marc, vous la connaissez par cœur depuis des années, ouais. Et des années. Quel est le sentiment que vous pouvez recenser vous chez les supporters après le match d'hier?
Il a un peu été modifié avec cette défaite contre Bordeaux. On était, si vous voulez, dans une optique de victoire. Je pense le club, je pense les supporters. On avait fait match nul en Coupe d'Europe chez eux. C'est une équipe qui joue plus milieu de tableau. Donc tout le monde est venu au stade avec cette impression qu'on allait gagner. Et puis on repart bredouille. Donc ça fait un peu dur, quoi. Il y a certains qui maintenant commencent un peu à avoir du mal à l'avaler. Parce que surtout on était rentrés sur le terrain, enfin dans les tribunes, nous, avec cette idée que c'était aujourd'hui qu'on allait marquer la première victoire, quoi.
Et donc sur la situation de l'USAP, les supporters, c'est quoi? Vous sentez que c'est avant toujours derrière l'équipe? Bien sûr, il y a les deux sentiments. Derrière, je vais poser la question à Patrick, mais c'est entre ceux qui disent on est déjà en Pro D2, ceux qui disent on y croit.
Oui, bon, ceux qui disent qu'on est en Pro D2, ils ont raison. Hein. Chacun a droit d'avoir son opinion là-dessus. C'est sûr que dans l'esprit comptable, si on avait pris 4 points contre Bordeaux, on reçoit Grenoble à Zèbre, on sait qu'on se bat pour le bas de tableau. Ça aurait été beaucoup plus facile. Et là, on se dit, quand la prochaine victoire, il y a un déplacement difficile et puis la réception... C'est bon, Ferrand qui tourne fort, donc c'est compliqué. Mais bon, faut ceux qui ont l'esprit critique, moi je les laisse critiquer. Nous on n'est pas là pour ça. On a su faire la fête l'année dernière quand on a été champion. Ben il faut savoir serrer les fesses, serrer les dents et le coude à coude et essayer d'en sortir. On est tous malheureux. Il n'y a pas que les joueurs qui sont malheureux. Il y a les supporters aussi sont très malheureux. Hein.
Patrick Arletaz, pour reprendre votre phrase, hein, c'est ça. Perpignan, c'est l'endroit le plus génial pour jouer quand on gagne et parfois le plus compliqué quand on perd.
Oui, c'est pas le cas en ce moment parce que les supporters sont merveilleux. Je comprends l'agacement. On était nous aussi. C'est pour ça que c'est dur. C'est dur aujourd'hui. On était. Je l'avais dit juste après Castres et je le redis encore là. On était nous aussi exactement comme l'a dit Jean-Marc, exactement dans la même optique de victoire dimanche, et on y croyait vraiment et on pensait qu'on pouvait le faire. Le match a démontré qu'on pouvait le faire, mais on l'a pas fait. Voilà, et c'est ça qui est dommageable. C'est ce que disait Mathieu tout à l'heure. On a l'impression qu'on a les outils pour pouvoir le faire, qu'on a les occasions pour pouvoir le faire, et ça veut pas le faire, et on n'arrive pas à le faire, et on n'arrive pas à forcer la décision. Il nous manque toujours quelque chose dans le dernier geste, dans le dernier coup de rein, dans la dernière décision. Voilà, moi je suis pas un homme de chiffres en ce qui concerne le rugby et de statistiques, mais on a changé un tout petit peu notre fusil d'épaule pour avoir un peu plus d'occupation, et là dimanche on est à 70% d'occupation. On a passé 70% du temps dans le camp de Bordeaux et 70% du match avec le ballon. Donc On a fait, il me semble, ce qu'il fallait pour pouvoir peser sur ce match, forcer la décision et le gagner. On n'a pas su, à un moment donné, mettre les points quand il fallait, mettre les occasions quand il fallait. Et les Bordelais ont 4 occasions d'essai, à mettre 3, et voilà. Et c'est d'un réalisme fou, et nous, on n'y arrive pas. Donc, on est tous très, très tristes. Donc, derrière la cabine, on l'a tous pris dimanche, parce qu'on était dans la même façon de penser que les supporters. Voilà. Et nous, ce qu'on se doit, c'est de lutter, de batailler. Il reste encore 15 matchs. C'est beaucoup. Voilà. Donc, on va pas pouvoir tout le temps remettre au lendemain. Je le sais bien.
Et quand vous lisez partout aujourd'hui, même hier soir, l'USAP déjà en Pro 2, l'USAP condamné, que ce soit des supporters, des gens qui le disent, qu'on puisse le lire dans les journaux, l'USAP déjà en Pro 2. Mathieu a déjà répondu là-dessus hier.
Je le comprends. Après, on n'est pas dans le monde de oui-oui. On est tous conscients que la défaite de dimanche, notamment, complique drôlement la tâche, que c'est compliqué, que c'est dur d'y voir un espoir là-dedans, voilà. Et donc nous on est obligé de lutter. On est sur le terrain, on est obligé de forcer la décision, on est obligé de se raccrocher à ce qu'on fait. On est obligé de, après, avec toute l'objectivité du monde, de voir qu'on n'est pas loin sur beaucoup de matchs, qu'on a loupé le coche sur quelques matchs aussi qui nous tendaient la main, et se dire qu'il va falloir forcer la décision. On est obligé de penser au match suivant, en espérant avoir des victoires et en espérant qu'il y ait une équipe qui a un creux comme nous on l'a depuis le début de la saison. Le sport de haut niveau, c'est fait de plein de rebondissements. On peut pas lire l'avenir. La seule chose qu'il faut, c'est continuer de travailler, y croire, s'accrocher, pour que si la roue tourne, on puisse en profiter. Mais c'est difficile. On est conscient qu'on sait que ça va être encore plus compliqué maintenant. Ça l'était déjà en début de saison, avant même qu'on démarre ce championnat. Ça l'est forcément encore beaucoup plus maintenant. Cette équipe a grandi à vitesse grand V, je le redis encore. Elle est passée de avant-dernière de Pro D2 à monter en top 14 avec très très peu de changements dans l'équipe. Finalement, c'est quasiment le même effet.
C'est même assez flagrant hier sur les 20 dernières minutes du match.
Ouais, c'est quasiment
l'équipe de Pro D2 qui a fini le match hier.
C'est quasiment la même équipe.
C'est peut-être là le problème ça. Aussi, justement. Sur cette équipe,
mais
qui a pas su se renforcer.
Vous savez, après, on va pas tout le temps. C'est un problème sans lettres. Cette équipe n'est pas au niveau. Elle gagne pas. Ça c'est une réalité. Elle en prend pas non plus 50 tous les matchs en étant totalement débordée, sans pouvoir exister ni rien du tout. C'est pas des excuses que je donne, mais c'est vrai que
c'est la réalité.
On leur a demandé de grandir à vitesse grand V parce qu'encore une fois, je vais pas rappeler tout le truc, mais on a fait un recrutement très tardif avec très peu de moyens, donc il fallait pas attendre non plus des miracles, et donc ça repose sur ces joueurs-là, et c'est ces joueurs-là qui font le corps de notre groupe. Leur éclosion et leur progression a été fulgurante. Et maintenant, ça marque un peu le pas, comme dans tous les apprentissages, etc. Sauf que le top 14 est impitoyable et que le fossé était sans doute un tout petit peu trop grand pour l'instant. Ce que j'y crois toujours, moi, parce que je crois en mes joueurs, et je pense qu'ils peuvent le faire, qu'on peut le faire. Voilà, le temps de latence pour pouvoir se mettre au niveau est grand, mais il n'est pas trop grand pour l'instant. Voilà, tant qu'il y a des matchs, tant qu'il y a des points à prendre, les difficultés, les autres équipes peuvent rencontrer aussi les mêmes difficultés que ce que nous on rencontre. Et à ce moment-là, va falloir être en capacité d'inverser la trajectoire. Ça n'empêche que, je crois en ce groupe, qu'on lui en demande énormément à ce groupe-là, et c'est normal. Et je comprends les supporters qui sont merveilleux, sincèrement, à nous soutenir, à nous encourager, à nous donner cette force-là et à donner cette force-là aux joueurs. Mais alors, on demande beaucoup. La réalité, c'est celle-là. En 2 ans, on leur a demandé de passer d'un niveau.
Et simplement.
Et moi, je reste persuadé qu'ils ont le potentiel de pouvoir le faire, et qu'on peut le faire. Après, voilà, comme je vous dis, je suis pas naïf. Hein. Je vais pas vous dire que ça sera facile, que les chances sont pas drôlement compromises, etc. On en est tous conscients.
La vie à Mathieu Acébès aussi, sur un match comme hier, vous vous sentez impuissant par moment. C'est ce qui ressort d'hier. Sur, vous avez la possession, vous avez le ballon, mais jamais vous n'arrivez à marquer. Comment vous êtes senti sur ce match-là? C'est clairement votre grosse difficulté depuis le début de saison, et encore plus sur un match comme hier où cette impossibilité d'aller marquer. Quoi.
Non, c'est surtout ce qu'on ressent, c'est que nous, pour marquer des points, on s'use,
batailler.
On fait beaucoup de temps de jeu et on s'y démène aux quatre coins du terrain et voilà, on a pris des points facilement et on donne des points quoi, mais c'est toujours la même histoire. Chaque week-end on le sait, chaque week-end on est averti et voilà, c'est ça aussi qui est pénible parce qu'on le sait, on est averti, mais voilà, encore une fois ce week-end sur un turnover, on prend un essai à trois passes et derrière c'est bien joué, ils ont le droit de bien jouer aussi les adversaires, sauf que en top 14 toutes les équipes jouent bien et voilà, nous aujourd'hui ces essais-là on les a pas. Après il faut aussi savoir quelque chose, c'est que moi je suis comme Patrick, je crois en l'équipe, je crois aux joueurs avec qui je joue et sincèrement je peux vous assurer qu'il y a de la qualité dans cette équipe et aujourd'hui je peux repenser depuis le début de la saison hein, sur chaque match et c'est pareil, c'est pas une excuse hein, mais on n'a pas cette action qui nous met le feu, on n'a pas cette action qui fait vibrer le stade, on n'a pas ce sentiment là que cette confiance qu'on avait et forcé de constater qu'aujourd'hui on joue sans la confiance, on n'a pas la confiance puisqu'on gagne pas. Pour avoir la confiance, il faut gagner. On l'a pas et c'est ça qui m'énerve un peu parce que j'aimerais voir cette équipe là avec la confiance, avec ce qu'elle est capable de faire. Mais aujourd'hui, je sais pas pourquoi et voilà, on n'a pas ça qui fait qu'on peut jouer totalement libéré et montrer vraiment la qualité de cette équipe. C'est ça aussi qui, je suis triste aussi pour ça, pas que parce qu'on perd, mais parce que cette équipe elle mérite pas ça et c'est sur ça aussi que j'espère et que j'ose croire encore qu'on peut faire quelque chose, même si comme Patrick je l'ai dit hier, on va se voiler la face, ça va être très très compliqué, mais voilà, on va.
On vous posait la question hier, vous y croyez encore au fond de vous,
au maintien? Oui, complètement. Et on ne sait pas ce qui peut arriver. Bien sûr qu'il y a moins de chances pour qu'on y arrive, mais voilà, il faut y croire. Et ne serait-ce que pour nous, que pour le challenge que ça peut être, enfin tout, voilà, et voilà, et puis si ça le fait pas, ben on se battra pour y revenir et refaire quelque chose de beau, et on aura appris. Rien sera laissé au hasard. Voilà, on n'a pas. Il y a tout qui s'est mal déroulé, mais on a tellement vécu dans cette équipe des choses. Personne ne nous a rien donné dans cette équipe. Vraiment rien. On est tout allé se chercher depuis 2 ans et demi. C'est difficile parce que voilà, ça va vite, ça va fort. Mais moi, sincèrement, je trouve pas que. Qu'on est qu'on soit démobilisé, qu'on soit pas bien, ça je le crois pas et je peux vous l'assurer parce qu'entre joueurs je sens qu'il y a encore quelque chose et voilà, on va se battre jusqu'à la fin, après voilà, on verra la fin.
On en parle dans quelques instants, ouais.
Et oui, suite de l'indice rugby dans une petite poignée de secondes après USAP Bordeaux avec nos invités, Didier Mathieu Acébès, Patrick Arletaz, entraîneur, et Jean-Marc Pastoré du club de supporters des Baratines. Et puis dans quelques secondes, on fait un point sur vos conditions de circulation.
USAP. Suivez l'USAP avec Limonette Mille, limonade catalane à l'eau de source et aux extraits naturels d'agrumes depuis 1928.
France Bleu Roussillon, partenaire de Collioure Couleur. Durant tout le mois de décembre, Collioure est en fête. Animation, spectacle, concert, marché. Et tous les week-ends, le mapping. Un spectacle son et lumière projeté sur les murs de l'église. Tous les vendredis et samedis de décembre à 18h30 et 20h. Collioure Couleur, tout le mois de décembre jusqu'au réveillon de la Saint-Sylvestre en plein air. Un événement France Bleu Roussillon.
29 ans après son dernier album studio, Michel Polnareff a choisi France Bleu pour présenter enfin son nouvel album événement. Enfin, le nouvel album de Michel Polnareff. L'Amiral signe son grand retour avec 11 titres. Piano-voix, pop-rock, balade symphonique et big band. Michel Polnareff, l'album événement enfin. Un album France Bleu. Toutes les infos sur francebleu.fr.
Qui sait qui a pas encore écrit sa lettre au Père Noël? Qui sait? C'est toi. Et le pauvre Père Noël, comment il va faire pour t'apporter des jolis cadeaux?
Si vos proches ne savent plus quoi inventer pour vous soutirer des idées de cadeaux, ne dites pas.
Bah, il a qu'à demander des idées au lapin de Pâques, le Père Noël.
Mais dites plutôt.
Il ferait bien d'aller faire un tour chez Cultura, le Père Noël.
Pas de panique pour vos achats de Noël. Toutes les meilleures idées cadeaux sont sur cultura.com et dans votre magasin de Rivesaltes, centre commercial Cap-Roussillon. De quoi passer un joyeux Noël.
Cultura, l'esprit jubile.
França Blau Rosselló, a Millars.
France Bleu Roussillon.
101.6.
France Bleu. 18h23, retour à vos conditions de circulation avec Thierry en direct. Bonsoir Thierry.
Bonsoir Sébastien.
Je vous écoute, dites-moi. Alors, tout.
Petit, on va dire, ralentissement, bon, assez conséquent quand même. Quand vous sortiez du centre commercial Carrefour Clairac, vous allez donc au rond-point de l'entrée, au rond-point
du cadran solaire.
Du cadran solaire, voilà. Donc tous les camions sont parqués tout le long de cette rue, tout le long de cette route, tous les camions sont parqués à gauche, et donc sont donc arrêtés par les gilets jaunes, et donc vous ne circulez que sur la seule voie centrale pour faire le tour du cadran solaire. Mais alors ça circule au compte-goutte, dans un sens comme dans l'autre. Voilà. Ouais,
circulation au compte-goutte vers le rond-point du cadran solaire à proximité de l'échangeur de Perpignan-Nord. Merci beaucoup Thierry.
Et ceux qui sortent de Rivesaltes-Zengro aussi, pareil, pour rentrer donc dans le cadran solaire, ouais. C'est exactement pareil dans les deux sens.
Voilà. C'est dans les deux sens de circulation. Soyez prudent Thierry, merci de votre appel. Au revoir.
Merci à vous. Bonne soirée à tous.
Vous nous l'avez dit, à Perpignan-Sud, c'est très compliqué aussi. Ça bloque notamment au rond-point de la station-service en direction de Toulouse. C'est vraiment complètement bloqué à ce niveau-là. L'échangeur de Perpignan-Sud est d'ailleurs fermé au niveau des sorties, que ce soit en direction de Montpellier ou en direction de Barcelone. Bon, voilà, vraiment éviter ce secteur de Perpignan-Sud. Par ailleurs, ça coince au boulot avec un bouchon plus important depuis le sud, puisque nous avons un trafic extrêmement dense depuis la Jonquière jusqu'au boulot sur la P7 et sur la 9. Et ça coince un petit peu avant la barrière de péage du boulot en direction de Barcelone également. On a du monde à Poyestre en direction du sud, sur la rocade sud en direction d'Argelès, sur les grands axes de Perpignan sinon, y compris les ponts en direction du sud, la voie sur berge direction Canet. Et puis je reviens sur ce bouchon important également en direction du Soleil, entre Saint-Charles et le Soleil, ça coince sérieusement et dans les deux sens de circulation. On fait la route ensemble au 04 68 35 5000.
France de Roussillon. France de Roussillon. Lundi. C'est rugby.
11e défaite de l'USAP en top 14 et on fait le point avec nos invités Mathieu Assébès, joueur, ailier, Patrick Arletaz, entraîneur, et puis Jean-Marc Pastoret du club des supporters Les Baratines avec vous, Cyril Manier.
Ouais, Jean-Marc, vous y croyez au redressement de l'USAP ou quel regard vous portez aussi sur le jeu de l'USAP en ce moment?
Mais nous on y croit, en ce moment je fais partie de ceux qui croient toujours, ça fait 35 ans que je suis dans les tribunes, donc j'en ai vu des matchs, des victoires, des défaites. Et nous on y croit. Ce qui me fait peur, moi, c'est d'être déstabilisé par des médias, par des petites histoires à droite à gauche qui font que, vous voyez, on a lu dans la presse, Paddy est allé en déplacement pendant ses vacances pour chercher ce qu'il allait faire, et là il sort juste presque, il est sifflé. Donc il faut laisser l'équipe dans le meilleur contexte possible. Il faut pas les traiter, comme j'ai pu lire à l'Indépendant, chez mes amis aussi, de cancre. Il faut pas aller chercher des histoires où il n'y en a pas. Il faut les laisser dans leur bulle. Ils savent ce qu'ils doivent faire. Nous, on doit faire ce qu'on a à faire. Et voilà, il faut éviter toute polémique. C'est très fragile. Donc, voilà, on fera l'omelette quand ça sera le moment.
Après, c'est l'USAP. Ça parle toujours. Comment vous le gérez, ça, Mathieu? Ça fait 3 ans que vous êtes là maintenant. Vous commencez à le vivre, à l'appréhender. C'est aussi c'est ce qui fait le charme d'ici. Comment vous faites le groupe pour le gérer,
mais
tout ça?
Après, c'est ce qui fait le charme d'ici. Mais,
je t'ennuierai sinon.
Mais on en avait déjà parlé il y a quelques années. Mais c'est partout pareil. Après, voilà, des supporters comme Jean-Marc, c'est fabuleux. C'est d'avoir des supporters comme ça, c'est exceptionnel. Après, c'est la nature humaine. Comme dans dans n'importe quel club, il y a le bon supporter qui est très content pour vous et que même si ça perd, il sera toujours derrière vous. Et il y a toujours le supporter qui est content que vous fassiez mal, que vous perdiez. Mais ceux-là, ils viennent au stade. Voilà, voilà. Il y en a partout des comme ça. Et les médias, ben, ça fait partie du jeu. C'est leur travail. Ils font ce qu'ils veulent. Moi, je pense et vraiment, et je suis sincère, ce qui compte pour le joueur, et ça a toujours été un peu ma philosophie, je le dis toujours, c'est le point de vue qu'on a entre nous, joueurs, le respect qu'on a entre nous, joueurs, que ton staff va te dire, ces critiques-là qui importent, les critiques de tes coéquipiers avec qui jouent avec toi et qui te font confiance ou pas, et de ton staff qui te fait confiance ou pas, mais c'est ces critiques-là qui comptent. Après, vous savez, les critiques dans les stades, il y en aura toujours, des positives, des négatives, c'est comme ça, chacun... Chacun a le droit d'avoir son point de vue. Voilà. Après, là où je rejoins, c'est que c'est pas bien de siffler un joueur, parce que je peux vous assurer que quand un joueur il rentre sur le terrain, il rentre jamais pour être mauvais, surtout à ce niveau-là. Donc ça arrive à tout le monde. Il faut aussi essayer d'être compréhensif, parce que c'est pas facile, parce que nous aussi on est dans la merde. Nous aussi tous les week-ends on se remet dans la merde, on se salit et on y revient quand même. Et voilà, c'est pas facile. Je peux comprendre que. Pendant la Coupe d'Europe contre Bordeaux, j'étais dans les tribunes, assis en tribune, et sincèrement, c'est pas pour dire, mais quand on voit le match en tribune, c'est quand même beaucoup plus facile. Comme quand on le voit à la télé, sincèrement. Et moi le premier, on peut faire l'erreur de voir des choses plus facilement, mais je peux vous assurer, quand vous êtes sur le terrain, c'est complètement différent, et ça va beaucoup plus vite, ça va beaucoup plus fort, il y a l'adrénaline, il y a la concentration, la vitesse, il y a tout. Comme je vous dis, je peux vous assurer qu'on fait tout vraiment pour être au niveau et pour essayer de réussir. Et voilà. Et ce climat autour, ça fait partie aussi de notre métier. Et c'est pour ça qu'il est beau aussi, parce que pour
moi, ce groupe, c'est pas mal qu'on se met là-dessus. En plus, ce groupe de l'USAP. Ouais, mais après, je parle ici de ces jeunes-là. C'est vrai qu'il y a deux ans, les critiques étaient encore plus dures quand j'étais arrivé pro des deux. Le groupe s'était resserré peut-être sur des valeurs ancestrales.
Quand on est dernier, avant que Patrick arrive, vous croyez que c'était facile ou quoi?
Ah non, je m'en rappelle bien.
Tout le monde se faisait chier dessus. Vous croyez que c'était facile? C'était pas facile. Et pourtant, les mecs, ils sont encore là. Et les mecs se sont battus, ils ont fait quand même quelque chose de beau. Parce qu'il faut pas oublier, voilà, l'année dernière, on a fait quelque chose de beau. C'est l'année dernière, c'est très bien. Mais ils sont allés se chercher, personne ne leur a donné. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc maintenant, je vous dis, jusqu'à la fin, on va rien lâcher. On va se battre avec les gens qui veulent se battre avec nous. Ceux qui veulent pas se battre avec nous, ben, ils se battent pas avec nous. Ils ont le droit. Tout le monde a le droit de choisir son camp. Maintenant, voilà, nous, on va rester positif et on va essayer d'avancer. Et pas de s'attarder sur des éléments un peu négatifs sur le côté, voilà.
Mais on va en parler du cas qu'a évoqué Jean-Marc et plus ou moins Mathieu sur les sifflets hier de Paddy Jackson. C'est forcément la déception pour beaucoup de supporters actuellement. Quel est votre regard sur Paddy Jackson et pourquoi le maintenir titulaire jusqu'au match d'hier?
Oui, c'est un garçon avec un fort potentiel, ça tout le monde le sait. Et moi j'estimais qu'il lui fallait du temps pour s'installer et pour donner la plénitude de son potentiel encore une fois. Donc voilà, ça a toujours été ma façon de fonctionner à partir du moment où je détecte un potentiel dans un joueur et que je lui fais confiance et que je crois que c'est quelqu'un qui peut nous amener énormément. Ben je le maintiens le temps qu'il s'installe, etc. Voilà, hier il est passé un peu à travers, donc il est sorti assez tôt dans la partie. On verra à partir de maintenant, voilà, comment on fera les choses, mais ça n'a jamais été ma stratégie de à un moment donné de rajouter du doute au doute. Voilà, quand un garçon a la volonté comme l'a Paddy, c'est-à-dire de bien faire, qui est investi en plein, qui travaille énormément, qui a tout fait, quel que soit ce que disent les journaux ou les médias ou quoi que ce soit. Voilà, au contraire, son agent va à tout prix qu'il aille prendre des contacts partout. C'est lui qui le refuse. Et ça, c'est pas dit de lui, c'est dit des clubs qui veulent le recruter. Et justement parce qu'il est concerné par la situation de l'USAP, qui veut donner son maximum. À partir du moment où vous avez un joueur avec un gros potentiel, et qui donne son maximum ici, s'il fait quelques matchs un peu décevants ou quoi que ce soit, vous pouvez pas rajouter du doute au doute. C'est pas, ça a pas été ma philosophie. L'année dernière, on n'aurait pas été champion, puisqu'on n'aurait pas eu Selponi à ce niveau-là si jamais j'avais écouté tout le monde. Donc à un moment donné, voilà, j'ai fait comme ça. Après, voilà, quand ça s'entête un tout petit peu, que la performance est pas là, c'est normal à un moment donné, peut-être, voilà, de faire quelques changements. Il me semblait que c'était le cycle pouvait amener jusqu'ici, et ensuite, et à partir de maintenant, on verra. Mais vous savez, à un moment donné, Mathieu a très bien parlé. Tout le monde a le droit d'avoir son avis. Moi, je respecte tout le monde, sauf les gens qui sifflent les joueurs. Voilà, je respecte pas ça. Voilà, je ne supporte pas ça. Voilà, ce ne sont que des gens qui n'ont jamais joué au rugby qui croient que les joueurs rentraient exprès pour faire perdre une équipe ou pour être nuls. Ça n'existe pas dans aucun club. Voilà, dans aucun club, dans le monde entier. Donc je ne respecte pas les gens qui sifflent un joueur. On peut siffler une équipe parce que c'est un mécontentement par rapport à un jeu, une façon de jouer, etc. Machin. J'accepte même à la limite qu'on me siffle à moi. C'est pas un souci, sincèrement, honnêtement. Voilà, siffler un joueur, je trouve ça vraiment lamentable. En plus, je trouve ça totalement antiproductif. Je l'ai déjà dit, c'est comme les attaques personnelles sur les réseaux sociaux ou quoi que ce soit. Je trouve ça d'un lamentable sale nom. Après, voilà, les joueurs se battent, les joueurs font confiance au projet de l'USAP en sachant que c'est dur. Les équipes, je rappelle simplement, mais c'est difficile pour tout le monde, hein, comme ça, de monter quand un club n'est pas totalement prêt non plus. Les joueurs ne sont pas entourés non plus avec tout ce qu'il faudrait autour de suffisamment solide. Si vous rajoutez tous les efforts qu'ils doivent faire, toute la progression qu'ils doivent faire, qu'ils n'ont pas autour d'eux tout le confort nécessaire pour ajouter, ça fait beaucoup de difficultés. Par contre, ils sont tous là à s'engager. Tu as été le premier à le faire. Ils sont tous là à s'engager parce qu'ils croient qu'il y a une prise de conscience et qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer à l'USAP. Vous voulez vous plaindre sur la situation actuelle ? Moi, je le comprends, mais pleinement. Sincèrement, honnêtement, je suis pas débile. Moi, j'ai été supporter de l'USAP bien plus longtemps que ce que j'ai été joueur ou entraîneur de l'USAP. Donc, je le comprends pleinement. C'est pas un souci. Par contre, faut comprendre que les enjeux et la progression de ce club va se faire avec l'inertie de tout le monde. À un moment donné, je vais poser des questions. Mais si le club change pas, Jean-Marc, l'année prochaine, ça sera quoi la problématique de l'USAP? Il faudra de nouveau qu'on gagne 6 ou 7 matchs à l'année en ayant 20 ou 19 défaites. Mais c'est une réalité. C'est comme ça que ça va se passer. Vous le savez très bien. Et l'année d'après encore. Le fait de descendre n'arrangera pas cet état de fait. Je le comprends. Il faut pas une descente pour arranger ça. On peut très bien se maintenir et quand même changer les choses. Mais l'enjeu à l'heure actuelle, il est là-dedans. Voilà, il est là-dedans. Et là-dedans, le club a fait le pari de la stabilité par rapport à ce groupe de joueurs, parce que ce groupe de joueurs a montré qu'il aimait le club. Et c'est avec des gens qui aiment le club qu'on peut le construire. C'est avec des gens qui aiment le club qu'on peut le faire progresser. Bien sûr, il leur faut des appuis, il leur faut un peu plus de pognon. On va parler un peu plus de pognon pour avoir des grands joueurs qui les mettent à côté. Vous savez, à un moment donné. Je vais faire un parallèle, mais c'est un parallèle que je pense. Les grands joueurs amènent les gens à se dépasser. Dan Carter est arrivé ici, il a fait 4 matchs. Il a fait 4 matchs. C'est pas lui qui fait gagner la finale, Dan Carter. Il a fait 4 matchs, il a rehaussé tout le monde. Je vais vous prendre un autre exemple. L'année dernière, si on est champion, il y a un joueur qui est venu qui a fait rehausser tout le monde. En 5, 6 matchs, 7 matchs, il a fait. Et un malheur lui est arrivé dessus. Mais Pod Guitter, c'est un peu le Dan Carter de notre Pro D2, je suis désolé. Et les grands joueurs font rehausser tout le monde. Il faut des grands joueurs à ces joueurs-là qui ont beaucoup de qualités, beaucoup. Il en faut quelques-uns. Pour l'instant, on n'a pas les moyens, mais sincèrement, mais je vais vous parler franchement, on n'a pas les moyens. Il faut se doter des moyens. Mais par contre, les joueurs qui sont là donnent tout et ils aiment ce club. Et ce que je ne supporte pas, de temps en temps, voilà, c'est qu'on remette en doute ça. Tous les joueurs que j'entraîne aiment ce club autant que les mecs qui les supportent. Et je respecte tous les mecs qui supportent l'USAP et tous les mecs qui aiment l'USAP. Mais tous les joueurs que j'entraîne aiment ce club. Sinon, ils iraient ailleurs. Voilà. Sinon, ils iraient ailleurs. Ils sont tous contactés. Pas par des clubs peut-être mirobolants. Ils sont tous contactés pour plus que ce qui touche à l'USAP. Voilà. Tous ceux qui re-signent sont contactés par des clubs qui sont plus sûrs que nous de rester en top 14, bien sûr, puisqu'on est les plus incertains, nous, avec beaucoup plus de pognon. Voilà, et ils toucheront plus de pognon. Et ces joueurs-là restent parce qu'ils croient en ce club, qu'ils aiment ce club, que c'est leur club et qu'ils ont envie de vivre la construction de ce club-là vers le haut. Ça se respecte. Hein. Voilà, ça se respecte. Après, sincèrement, hein, voilà, ce que vous faites, hein, Jean-Marc, depuis le début de l'année, c'est inimaginable pour nous. C'est une aide.
On n'est pas les seuls. Hein.
Non. Ce que vous faites, je parle pas. Je te prends comme. Je te prends si tu veux comme si je parlais à l'ensemble des supporters en ta personne à toi. Mais voilà, ce que font les supporters, c'est merveilleux. Que Yannick, que maintenant, il y a un peu de gronde, que les gens soient impatients, qu'ils y croyaient beaucoup et qu'ils y croient moins et que donc ça soit impatient et tout ça, mais nous, on est prêts à l'affronter. Ça, bien sûr, mais moi, je peux le comprendre. Par contre, crachez pas sur les joueurs. Voilà. Sifflez, mettez votre contentement à la sortie de l'équipe, je sais pas moi, faites ce que vous voulez. Mais prendre un joueur en particulier, c'est lamentable. Voilà, c'est nul.
Alors, on est l'avis à Jean-Marc Pastore justement par rapport à ce que vient de dire Patrick, notamment sur Paddy.
Mais c'est justement ce que je dis, c'est protéger au mieux, mettre tous les joueurs dans un contexte le plus favorable possible. L'addition de problèmes, ça peut pas trouver une solution favorable. Hein. Moi, je suis anti-sifflé, ça c'est. Et bon, j'ai pris de l'âge, mais même quand j'étais plus jeune et plus fougueux, je sifflais pas. Hein. Donc, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Patrick. On ne peut pas aider quelqu'un dans la difficulté en lui trouvant plein de défauts. Voilà. Donc, par rapport à la remarque avec Dan Carter, on avait sifflé combien de fois le nom m'échappe, pour Ricard, voilà, Jérôme.
Ah ouais, et combien de fois Nicolas Larage aussi.
Ouais, quand on va en finale et qu'on gagne le top 14, c'est lui qui met les pénalités de 50 mètres. Mais il avait ce grand joueur qui l'a bien. Voilà, bien dirigé. On est tous dans la même galère. Moi, j'ai toujours eu cette façon de voir les choses. Et voilà. Donc, si on doit promener du négatif, eh bien, il faut rester à la maison devant la télé. Et au stade, tous ceux qui veulent positiver, eh bien, ils viennent au stade. Et ceux qui veulent être négatifs, ils restent devant la télé. Voilà.
Et dans les prochaines minutes, on évoque le déplacement de l'USAP face au Connard. Hein, ça se passe à Galway. Et ça se passe ce samedi après-midi. Ce sera à vivre en intégralité sur France Bleu et sur FranceBleu.fr. Et dans quelques secondes, retour à vos conditions de circulation. Situation compliquée, notamment au péage de Perpignan et au péage du Boulou.
L'USAP. Suivez l'USAP avec Limonette Mille, limonade catalane à l'eau de source et aux extraits naturels d'agrumes depuis 1928.
France Bleu. France Bleu Roussillon, partenaire du Téléthon à Perpignan. Deux jours pour lutter contre les maladies génétiques. Deux concerts. Vendredi, les alchimistes, parrain 2018, au Palais des Congrès de Perpignan. Samedi, 15 artistes et groupes du pays catalan vous donnent rendez-vous au théâtre La Vigne de Peyrestort. Téléthon 2018, faites vos dons au 3637 et participez aux événements avec France Bleu Roussillon.
Tout en Camon, le trésor du pharaon, l'exposition des 100 ans. Une exposition immersive qui réunit 150 objets originaux issus de la tombe de Toutankhamon, dont des trésors inestimables exposés pour la première fois en Europe depuis 50 ans. Toutankhamon, le trésor du pharaon, à partir du 23 mars à la Grande Halle de la Villette.
En partenariat avec France Inter.
France Inter, une radio de Radio France.
France Bleu Roussillon.
L'infotrafic avec vous, 04 68 35 5000. Il y a stockage des poids lourds à hauteur de Perpignan Nord vers le rond-point du cadran solaire. Circulation extrêmement difficile sur ce secteur. D'ailleurs, certains bus sont déviés par Cléra et Bonpass, information que nous venons de regarder. Bon, pour ce qui concerne Perpignan Sud, c'est pas mieux, c'est même peut-être pire. D'ailleurs, cet échangeur est toujours fermé au niveau de sa sortie, que ce soit en provenance de Barcelone ou de Montpellier. Ça coince également énormément, ça bloque même carrément vers le rond-point de la station-service sur le secteur de Saint-Charles à Perpignan-Sud, donc c'est compliqué. Idem au Boulou, alors là c'est vraiment très compliqué en provenance de la Jonquière, même si ça s'arrange un tout petit peu, mais ça coince vraiment de la Jonquière jusqu'au Boulou sur la P7 et sur la 9. On a également un trafic chargé à partir de Tresserre en direction de Barcelone avant la barrière de péage du Boulou. Sinon, nous avons, attention, toujours un trafic qui est très chargé dans la traversée de Saint-Charles en direction du Soleil et un petit peu aussi aussi. Dans l'autre sens, ça coince également au niveau du rond-point en provenance de Baou. À part cela, nous avons un trafic dense sur le pont de la pénétrante nord en direction du sud, la voie sur Berge direction Canet, le boulevard Aristide Briand dans les deux sens. On a également du monde après le grand rond-point de Porte d'Espagne en direction de Techno Sud sur la roquette sud. Et puis ça coince un petit peu après le quartier Porte d'Espagne en direction du Boulou, en direction déjà dans un premier temps de Poyestre. On fait la route ensemble.
France de Roussillon, France de Roussillon. Lundi, c'est rugby.
Avec Cyril Bagnères, après USAP Bordeaux, nos invités Mathieu Assebès-Hellier, Patrick Carletas, entraîneur, et puis Jean-Marc Pastoré du club des supporters des Baratines.
Une question pour faire la transition, mais je vous remercie sur quelque chose que vous disiez, Patrick, il y a quelques instants. Ça, la difficulté aujourd'hui entre gérer cette situation très compliquée en top 14, et en plus, bon, vous avez re-signé pour 3 ans, vous avez fait un parallèle tout à l'heure, c'est ça, tout ce mélange en ce moment entre gérer l'urgence, le quotidien, et gérer les 3 ans à venir, la construction qui est prévue, enfin en tout cas la mission qui vous a été confiée.
Non, parce que moi,
c'est incompatible complet, c'est une grosse difficulté.
Non, parce que moi, je suis obnubilé par le quotidien. C'est mon job, voilà, de s'occuper du quotidien. Donc voilà, non, c'est pas difficile. C'est juste avoir de la lisibilité par rapport à ce qui va se passer. C'est juste parce que j'aime ce club et que je sais bien que si on prend pas conscience et si ça doit servir à quelque chose dans notre grosse problématique du moment, si ça doit servir au fait de dire que justement si on veut pas que ça perdure, que ça continue d'année en année ou quoi que ce soit, il faut à un moment donné se regarder en face et on peut pas dire oui, on le fait, on continue de le faire comme ça parce qu'on l'a toujours fait comme ça, mais ça ne, à l'heure actuelle on a pris trop de retard, donc il faut à un moment donné que ça prenne conscience. Et si le titre de l'année dernière est la grosse difficulté dans laquelle on est cette année, peut dire que si on veut une USAP plus flamboyante, qui soit dans le top 14 pour jouer vraiment son rôle, s'y maintienne, voilà, il faut se poser les mêmes questions que se sont posées Lyon, La Rochelle, Pau.
Même Toulon, le Racing, à un moment, on plus d'argent derrière.
À un moment donné, et voilà, et savoir aussi qu'on a des constructions qui peuvent ressembler à celles de La Rochelle, à celles de Pau à la limite et tout ça, mais qui ne peuvent pas ressembler à celles de Lyon ou à celles du Racing. Donc il faut se poser.
Vous y croyez que c'est possible d'avoir une USAP comparable aujourd'hui à La Rochelle dans 3, 4, 5 ans? C'est pour ça que vous êtes resté?
Ah oui, j'y crois, oui. Bien sûr, j'y crois. Oui, j'y crois, mais il faut se poser les bonnes questions, agir comme il faut. Et... Non, mais là, je vais vous prendre un exemple. À l'heure actuelle, si vous voulez, l'USAP, ça représente énormément dans le département. On est d'accord. Enfin, c'est quelque chose qui pèse. Tout le monde connaît.
C'est pour ça qu'aujourd'hui, tout le monde parle de ces 11 défaites à la dernière place. Sinon, on s'en fiche et on passe à autre chose.
Donc ça draine, etc. Vous savez, sur les 20 plus grosses entreprises du département, combien il y en a qui sont sponsors de l'USAP? Les 20 plus grosses. Voilà, on prend les 20 plus grosses qui sont dans le département, pas à l'extérieur, dans le département. Donc, qui sont dans notre département où l'USAP a la place qu'elle a. Vous savez combien? 3. Mais parce qu'à un moment donné, il faut, par rapport à l'offre qu'on peut proposer, etc., machin, le match en lui-même ne suffit pas. Mais c'est un exemple que je vous donne. Mais il y a des tonnes de réflexions à mener là-dessus.
Après, c'est le serpent qui se mord la queue. Là, elle n'est pas attractive, l'USAP, parce qu'elle a la 11 défaites, elle est dernière. Et les 11 de la 11 défaites, elle est dernière. Parce qu'il n'y a pas les moyens aussi qui vont derrière.
Parce qu'à un moment donné, l'importance qu'a l'USAP dans le département, ça concerne les 20 entreprises, qu'elles perdent, qu'elles gagnent, qu'elles soient moyennes, pas moyennes, qu'elles soient premières de Pro D2, qu'elles existent là-dessus. Ça concerne tout le monde. Vous le savez très bien. Je ne peux pas croire que dans ces entreprises, entreprises-là, il n'y a pas une majorité des salariés qui connaissent l'USAP, qui en parlent et qui sont, bien sûr, ça existe dans toutes les entreprises. Donc non, à un moment donné, sauf que donc, vous me posez, est-ce que c'est possible? Et je vous dis que oui, c'est possible, parce que il faut optimiser un tout petit peu tout ce qu'on a ici. Alors, est-ce que ça sera simple? Non. Est-ce que ça sera demain? Sans doute non. Est-ce que comment il faut le construire, mener une réflexion par rapport à ça? C'est exactement ce qui est en train d'être fait en ce moment. Donc j'y crois. Voilà. Donc j'y crois, donc on se bat. Mais je ne suis pas le seul à y croire. Les joueurs aussi y croient.
Mais on va demander à Mathieu Assebès pourquoi il est resté à l'USAP. En plus, le premier, je ne sais plus, entre Beren Botta et vous, peu importe. Un des deux premiers à avoir signé.
Le premier.
Le premier, voilà.
Pourquoi je suis resté? Ben, tout simplement parce que j'avais confiance, parce que, ben, l'USAP a été mon choix numéro un, même si, comme dit Patrick, on peut avoir des contacts ailleurs. Ma première pensée, elle était pour l'USAP, je l'avais dit clairement à Patrick. J'ai été reçu ici comme, on m'a donné beaucoup d'amour et ça a été difficile au début parce que voilà, et comme je vous dis, on a vécu quelque chose quand même d'incroyable l'année dernière, et surtout je prends plaisir vraiment sincèrement à évoluer avec ces mecs là et des fois il faut pas aller chercher très loin quand on a là le bonheur, donc je suis resté ici tout simplement parce que voilà, je pense que c'était le meilleur choix et je voulais que l'USAP ça devienne le plus gros club de ma carrière et ça va
devenir du coup en termes de longueur
et j'avais envie de laisser une trace et d'être exemplaire jusqu'au bout et voilà, c'est pour ça aussi que j'ai re-signé à l'USAP
et de convaincre les copains de rester aussi.
Ben ça on force pas les gens mais on n'a pas besoin de les convaincre parce que franchement, sincèrement, ils aiment tous le club aussi, comme disait Patrick. Et c'est vrai, il a raison. Bien sûr qu'il y en a qui sont contactés par d'autres clubs.
En ce moment, tous les jeunes français,
oui, voilà,
ils ont 4-5 clubs sur eux.
Ils pourraient partir, mais la plupart vont rester. Donc c'est un signe fort quand même. Et moi, je crois au club. Je crois. Mais j'ai joué à Pau. Et je peux vous assurer qu'à Pau, il y a 5 ans de ça, c'était pas le Pau de maintenant, avec le stade qu'il y a maintenant, tout ce qui se passe autour du stade. C'est ça que Patrick voulait dire aussi tout à l'heure. Aujourd'hui, un match de rugby, ça suffit pas. C'est les à côté, c'est l'espace qu'il y a autour du stade, c'est tout ce qui peut se vendre à côté. Et les gens, ils viennent pour ça aussi, parce qu'ils viennent pour passer un bon moment, pour se divertir et pour avoir voilà de l'attraction. Et aujourd'hui, la progression du club, elle est là tout simplement avec de la modernisation et voilà. Mais ça, on leur fait confiance parce que nous, c'est quand même pas de notre ressort. On a déjà quand même assez de choses à penser sur le terrain, mais pour l'avoir vécu dans d'autres clubs, je suis sûr que ça le fera à l'USAP.
Jean-Marc, Cognier, des questions pour Patrick, Mathieu?
Il faut qu'ils sachent qu'ils ont le soutien, ça je l'ai répété, je le disais bien avant. Voilà, il faut les protéger, je pense que c'est assez clair pour Patrick et Perry, et comme Christian, ils protègent l'équipe. Hein. Voilà, moi je ne serai pas celui qui mettra le feu hein, à la poudre. Moi, je fais confiance au staff, c'est leur boulot, comme on dit, je fais confiance aux joueurs. Quoi qu'il arrive, je pense que nous, les Baratines seront encore là l'année prochaine, hein, au top 14 ou ailleurs. Mais ce qui est important, c'est qu'on les laisse évoluer, quoi. C'est très compliqué. On le voit, je suis pas le seul ce week-end dans le virage à être triste de voir qu'on se fait pas, et qu'on n'arrive pas à passer, que, voilà, les gens sont tristes, hein. Moi, je vois pas dans le virage, j'ai pas croisé de personnes en colère. Hein. Voilà, des gens tristes et qui espèrent toujours. Donc, je pense que la majorité des supporters seraient d'accord avec moi pour continuer à les soutenir. Et puis, s'il y en a quelques-uns qui ne sont pas d'accord, c'est leur choix aussi, quoi. Donc, nous, on doit faire notre boulot. On est supporters, hein. On n'est pas entraîneurs, on n'est pas joueurs. C'est toujours ce que je répète, nous, on doit supporter quand ça va bien. On était tous à faire la fête l'année dernière, il faut tous se serrer les coudes cette année. Voilà.
D'un point de vue plus pratique, on va redescendre Patrick Arletaz sur deux, trois choses sur les blessures du moment. Enzo Forletta, bon, ça va, c'était la tuile de la semaine dernière, ça. Comment va-t-il?
Enzo Forletta, ouais, jeudi, qui s'est déchiré, donc il devait démarrer à gauche. On a Gert Müller qui s'est bloqué le dos.
Mais Enzo, ça va, ça, on va le revoir.
Enzo, ouais,
trop tard, je pense qu'on verra pas Galway.
3-4 semaines. Gert, bon, donc voilà, qui est bloqué du dos. Mathieu, qui a une pubalgie récurrente, qui a été très courageux et qui l'a depuis très longtemps et qui joue avec en serrant les dents. Mais là, c'est devenu tellement aigu que ça va être compliqué. Donc, il va s'arrêter pendant un petit moment.
Combien de temps?
Un mois. Comment? Et voilà, ça peut.
Vendilem, j'ai qu'à vous.
Voilà, il y a Wendilem avec un problème au mollet. On a JB Pujol qui est pas encore revenu.
On parlait avec lui il y a pas longtemps. Il devrait avoir l'aval, ouais, déjà pour recommencer un peu à tâter du ballon.
Janvier. Voilà, bon, quelques-uns comme ça. Manu Leyatoa qui a un petit problème au cervical aussi. L'âme qui a un problème à l'épaule, mais qui va se soigner. Voilà.
C'est fin d'année 2018, hein, Mathieu, là. On range un peu la voiture au garage quelques temps.
Ouais, non, mais enfin, pas comment après. Mais
non, bah, je parlais de ta blessure. Ouais, tu me dis que tu vas t'arrêter à moi.
Ouais, mais comme dit Patrick, c'est quelque chose que j'ai depuis l'année dernière, depuis janvier dernier. Et... c'est embêtant parce que ça fait mal, parce que ça prend la tête, mais c'est comme ça. De toute façon, quand on est joueur de rugby, on va pas se mentir, on n'est jamais à 100%, on a toujours un petit pet parce que la semaine, ça passe vite, on retravaille du rugby, que le week-end, on prend des pets. Franchement, des matchs dans votre carrière, à 100%, vous en jouez pas des 100 et des 1000, vous avez toujours un petit quelque chose. Voilà, ça fait partie du jeu. On serre les dents et tout, mais là voilà, c'est avéré que moi c'est déchiré au niveau du pubis et je l'avais dans la semaine et comme dit Patrick, j'ai serré les dents, mais c'est compliqué pour les accélérations, pour plein de choses et là il me faut vraiment du repos parce que ça me fait mal. Mais après voilà, c'est pour revenir à ce que disait Jean-Marc, que ça m'arrive à moi cette blessure, mais il y en a d'autres qui ont des blessures et qui jouent et qui serrent les dents et qui pourraient se ranger.
Adria Kokadji hier.
Qui pourraient se ranger, et je peux vous assurer, et ça aussi, et c'est significatif de l'état d'esprit de cette équipe, il y en a plein des mecs qui ont des pets et qui ont mal et qui pourraient s'arrêter et qui s'arrêtent pas. Ça veut dire qu'ils veulent pas laisser les copains dans la merde et qu'ils veulent pas tomber les armes. Donc ça pour moi c'est un signe fort. Et quoi qu'il arrive, ça ment pas. C'est-à-dire que peut arriver ce qui doit arriver, qu'on reste ou qu'on reste pas en top 14, mais jouer avec des mecs qui se battent alors qu'ils ont mal, ça fait plaisir.
Mathieu Acébès avec nous, il y a également Patrick Arretaz et Jean-Marc Pastoret. On revient sur le rugby dans un instant et puis on va parler circulation évidemment parce que c'est toujours un petit peu compliqué. Ça s'arrange, mais c'est quand même complexe au niveau des péages dans les pays.
L'USAP. Suivez l'USAP avec Limonette Mille, limonade à l'eau de source et aux extraits naturels d'agrumes. Plus d'infos sur www.limonette.com.
France Bleu Roussillon est partenaire du marché de Noël du Barcarès. Vendredi 7 décembre, France Bleu Roussillon installe ses studios au cœur du village de Noël du Barcarès. Dès 16h, émission spéciale pour découvrir l'un des événements les plus féeriques du sud de la France. Rendez-vous vendredi 7 décembre de 16h à 19h au village de Noël du Barcarès. Un événement France Bleu Roussillon.
France Bleu et Détour en France vous invitent à la découverte des régions et de leur patrimoine. Monuments, villes et villages, paysages d'exception, artisanat, gastronomie et tradition. Pour organiser vos séjours, apprendre et explorer une région à votre rythme, retrouvez dans Détour en France tous les circuits, balades, bonnes adresses et rendez-vous insolites et gourmands. Ce mois-ci dans Détour en France, spécial Franche-Comté de Besançon à Dole avec une balade dans le Jura suisse. Notre coup de cœur à retrouver sur France Bleu.
France Bleu et TF1 présentent Disney sur glace, Crois en tes rêves. Le spectacle familial incontournable de l'hiver prochain. Disney sur glace, Crois en tes rêves. Entrez dans un monde d'action avec Jasmine, Ariel, Réponse et Vaiana et leur prince. Découvrez la force, la bravoure et la bonté qui nous inspirent, génération après génération. Disney sur glace, Crois en tes rêves. Le spectacle événement du 12 au 23 décembre au Zénith de Paris, puis en tournée dans toute la France. Une tournée France Bleu. Toutes les infos sur francebleu.fr.
France Blau Roussillon à Saint Cyprien.
France Bleu Roussillon.
C'est nous .6. France
Bleu. Avant le retour du rugby, l'info trafic à 18h54. Nous sommes à Poyastre avec un obstacle. Attention dans la traversée du village. Vous êtes prudent, ça va mieux, mais ça coince quand même un petit peu. Après Porte d'Espagne, direction le sud, direction Poyastre sur la D900. L'autoroute A9 avec un trafic toujours autant chargé. Quand vous venez de la Catalogne du Sud, ça coince déjà sur la P7 à partir de la Jonquière un petit peu avant jusqu'à la barrière de péage du Boulou. Et puis en direction de Barcelone, ça coince également avant la barrière de péage du Boulou. Soyez vigilants. Évitez le secteur du péage sud. C'est très compliqué. D'ailleurs, la sortie est fermée dans les deux sens de circulation. Perpignan au sud sur l'autoroute A9, ça coince vers le rond-point qu'il y a à proximité de la station service en direction de Toulouse. C'est complètement bloqué même à ce niveau-là. Et puis ça coince maintenant au rond-point qu'il y a juste avant l'échangeur de Perpignan Nord, avec là aussi un stockage des poids lourds, un trafic très très chargé. Secteur vraiment à éviter, le rond-point du cadran solaire. On est à Perpignan avec toujours du monde. Entre Saint-Charles et Le Soleil, ça coince de moins en moins, mais ça coince encore, y compris dans l'autre sens, en provenance du Soleil, direction Saint-Charles. Et puis une autre difficulté, et c'est la seule que j'ai à Perpignan, véritablement vers le centre-ville, c'est le pont Arago qui est toujours saturé en direction du sud. On fait la route ensemble sur France Bleu Roussillon, 04 68 35 5000.
France Bleu Roussillon, France Bleu Roussillon, lundi, c'est rugby.
Allez, cap sur Galway pour le prochain match samedi. Nos invités, Mathieu Aceves, Patrick Arletas et Jean-Marc Pastoret du club de supporters des Baratines.
On va faire très vite en 4 minutes, bien sûr, il y a 40 000 sujets qu'on aurait aimé aborder, mais on ne peut pas s'en
dire. J'avais pas m'inviter.
Okay. On aura l'occasion de se revoir.
J'aurais préféré que tu m'invites pas d'ailleurs. Là, c'est des armes, mais
ça aurait été meilleur signe. Ouais, ça aurait été meilleur signe.
C'est pas des jours faciles non plus. Hein.
Mais même Mathieu Aceves, je pense aussi.
Non, mais Mathieu, ça a été le plus courageux parce que joueur, c'est encore plus compliqué. Bon, ça fait partie de mon métier. Mais joueur dans des.
Bah
dans
si
des...
on peut vous reconnaître un truc, on va pas vous faire des compliments. On a vu des équipes se cacher beaucoup plus que vous ne le faites.
Dans des situations comme ça, il n'a pas rechigné, il a dit oui de suite. Hein, et sincèrement, voilà, je voulais le remercier aussi parce que c'est. Pour un joueur, c'est des choses qui ne sont pas faciles à faire. Hein. C'est pas simple de venir ici répondre quand la déception est à son comble.
On le sait, Mathieu Aceves, il aime bien ça. Ouais.
Non, il aime pas, il le fait.
Je sais bien, il le fait,
pareil.
Très bien.
Il est courageux, c'est pas pareil.
Jean-Marc, parce qu'on va parler en 3 minutes vite fait de Galway, et justement, comme on en va aborder, les Baratines et d'autres supporters, je sais que le Broker et d'autres, ils vont y aller à ce déplacement. C'est un déplacement sympa, mais long.
Il y a les 5 heures, il y a nous, voilà. Ouais. Donc, il y a qui partent de Carcassonne, d'autres ils partent. Bon, ça c'est le côté loisir. On va pas dire qu'on va pour supporter que l'équipe, on va aussi. C'est ce qui nous plaît en top 14, c'est ces déplacements européens. Et donc là, oui, on part à 6h du matin, comme Stanine, ou avec le bus rempli. Et voilà, l'avion à Barcelone, et un bus qui nous attend là-bas, parce que bon, Galway, c'est pas Dublin, quoi, c'est un peu plus loin.
Ah, c'est très compliqué, pour y aller. Ouais.
Voilà, donc on va se retrouver à 3 clubs du supporter, à ma connaissance, hein, voilà, qui font le déplacement. Et donc on va passer un beau week-end, quoi.
C'est fabuleux, ça.
On va décompresser.
Ça, c'est chouette, ça.
Un petit mot de Mathieu, parce qu'on a tous vu aussi ton discours sur la pelouse après le match de Castres. Voilà, je te vois regarder admiratif, entre guillemets, Jean-Marc, sur ce qu'il dit, sur là, les supporters, même si, bien sûr, c'est un déplacement sympa, mais il faut y aller, quoi, quand on travaille.
Ouais, mais moi, c'est le rugby dans lequel j'ai grandi, ça, être proche des supporters passionnés comme ça, et c'est ce qui a fait aussi que j'ai voulu être rugbyman pour des gens comme ça. Donc, voilà, moi, je trouve ça admiratif, et c'est pour ça que des fois je dis que voilà, il faut mettre de l'eau dans son vin et pas se plaindre parce que on a une chance inouïe de faire ce métier là qui est difficile, hein, des fois, hein, parce que s'il était pas difficile, il y en a plein qui voudraient le faire, hein, et c'est pas donné à tout le monde de le faire, mais moi j'aime cette proximité avec les supporters et pouvoir donner du bonheur à des gens qui sont passionnés, qui aiment un club comme ça. Je trouve que c'est ce qu'il y a de plus beau, donc moi, oui, je suis admiratif quand il parle, et je trouve ça beau qu'il fasse ça pour aller à Galway.
Mission impossible, Patrick Arletas, dans 25 secondes, dans quel but le déplacement au Connard, avec quel groupe et pourquoi faire?
Non, mais le but, c'est, vous savez, c'est un peu, c'est con de dire ça, mais c'est quand même la vérité. C'est un peu de fraîcheur. Voilà, c'est déconnecter de notre championnat, de notre réalité. Peu importe ce qu'il arrive en Coupe d'Europe, il n'y aura pas d'incidence sur notre descente ou pas notre descente. Donc, c'est un vent de fraîcheur. Deux choses, avec quel groupe, j'en sais rien, on le fera demain. Juste une seule chose, si ça doit servir à quelque chose, c'est ce que j'ai dit aux joueurs ce matin. C'est nous libérer par rapport au fait de gagner, pas perdre, etc. Et je sens bien que les joueurs sont attachés là-dessus parce qu'aussi ils aiment le club et tout ça. Notre situation fait que maintenant, vous allez détester ça, mais c'est quand même ce qui va se passer. On va prendre les matchs les uns après les autres, et c'est quand même vrai que ça va se passer comme ça. Ça, même en essayant de faire notre meilleur rugby avec le maximum de ce qu'on a à faire et de compter les points à la fin, et j'espère que ça va les libérer pour qu'on ait des bonnes surprises.
Merci beaucoup, merci Jean-Marc Massoré, merci Mathieu Aceves. Le club à faire, l'association ira aussi à Galway.
À réécouter en podcast sur francebleu.fr.